Donc, peut-être il vous serait utile d'avoir le texte encore sous les yeux, Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 12. Et ensuite, vous avez sur le dos de la feuille, là où il y a des prières, il y a le plan que nous allons suivre. Donc, peut-être aussi cela vous serait utile. Alors, j'aimerais commencer en vous présentant trois personnalités ce matin. D'abord, il y a Jacques, ensuite il y a Nina, et ensuite il y a Albert. Jacques. D'abord, Jacques, il est zélé pour le Seigneur. Il est reconnaissant envers le Seigneur de l'avoir sauvé d'un mode de vie impie. Il en est conscient. Il allait loin dans le passé, dans l'excès, dans des dépenses et des choix qui n'honoraient pas Dieu. Il a connu la grâce de Dieu. Et il est soucieux de vouloir avertir d'autres de ses propres erreurs du passé. Il est parfois déçu. Il faut le dire par son entourage chrétien, de son église locale. Il n'arrive pas à comprendre comment certains au sein de l'église prennent du plaisir à écouter de la musique non chrétienne, à regarder certains films à la télé, à faire des dépenses selon lui inutiles et égoïstes. Il a compris d'ailleurs tout récemment qu'un ami vient d'acheter des billets pour les JO à Paris pour plus de 300 euros le billet, sans compter le logement et le voyage. Et il dit, ben, ne voit-il pas à quel point il y a des frères et des sœurs dans l'assemblée qui n'y arrivent même pas à payer leur loyer et ils font de telles dépenses. Sa tendance, donc, est de critiquer rapidement les autres. Certains, d'ailleurs, évitent le contact dans l'assemblée avec Jacques, car ils savent qu'une conversation avec lui ne va pas durer longtemps avant qu'il essaye de les corriger. Jacques. Qui juge. Ensuite, il y a Nina. Quant à elle, une réputation d'être super gentille, Nina. Toujours prête à aider, elle a un cœur pour ceux et celles qui sont un peu marginalisés à l'église, car elle avait, elle aussi, dans le passé, le sentiment parfois d'avoir été négligée par les autres. Sensible aux difficultés des autres, elle est vite distraite d'une tâche afin de rendre une autre tâche ponctuelle pour quelqu'un. Parfois, sa bienveillance envers les autres fait qu'elle ne juge pas bien le contexte dans lequel elle se trouve. Parfois, elle essaye de parler du Seigneur Jésus dans des contextes où on se moque d'elle, où des gens profitent de sa gentillesse sans avoir le moindre regard ni pour elle, ni pour ce qu'elle dit. Nina, la naïve. Ensuite, il y a Albert. Albert, lui, il voit la naïveté de Nina et se moque un peu de l'esprit critique aussi de Jacques. Il est satisfait de là où il en est dans sa vie. Et ce n'est pas qu'il renie formellement Dieu ou Jésus, mais il est frustré que des gens l'aient de vouloir trop dépendre tout le temps de Dieu, de Jésus, pour sortir de différentes situations, tandis que si seulement ces personnes suivaient son exemple à lui, ben ils s'en sortiront. Car lui, il est plutôt discipliné. Et il faut dire que de son côté, oui, il voit beaucoup dans l'Église qui prie, mais ce n'est pas la prière qui semble avoir résolu leurs difficultés, si nous sommes honnêtes. Et même si lui, il prie moins, il a aussi tout dont il a besoin, même peut-être plus. Une famille, une belle maison, un appartement à la côte, etc. À quoi ça change donc si il prie ou s'il ne prie pas? Et il se souvient d'ailleurs, lorsqu'il avait demandé à Dieu dans le passé de réussir son examen de permis de conducteur de voiture, ben, ça n'a pas marché. Tandis que la deuxième fois, il passait le permis, ben, il n'avait pas prié et il a réussi. Quelle leçon devons-nous tirer de cela, dit-il. Ok, donc Dieu, il a son royaume, mais il ne faut pas trop dépendre de lui pour réussir ici-bas. Albert, l'autosuffisant. Jacques, Nina, Albert. Donc trois personnages sous différentes formes, bien vivants au sein de l'Église de Jésus-Christ, même de notre Église. Depuis le chapitre 5, verset 20 de Matthieu, nous sommes à la poursuite d'une justice qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens, afin d'entrer dans le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ. Une justice qui donc va plus loin que les apparences à l'extérieur, mais qui touche l'homme à l'intérieur. Car si nous sommes membres du royaume des cieux, notre cœur a été touché par notre Père céleste, pour que nous fassions preuve d'une pauvreté d'esprit, pour que nous ayons faim et soif de la justice, en partie car nous reconnaissons le progrès qu'il y a encore à faire en nous, et qu'au lieu de se contenter d'une apparence de piété, nous cherchons à honorer et à plaire à notre Père céleste. Donc ce texte que nous venons de lire continue à nous aider à comprendre que nous pouvons, ce que nous pouvons appeler les normes du royaume, ce que c'est de vivre en tant que disciple de Jésus-Christ, membre de son royaume. Et Jésus soulève ici des domaines qui servent à complémenter ce qu'il a déjà survolé dans le sermon jusque-là et qui touchent ces trois cas de Jacques, Nina et Albert. Donc d'abord, ceux qui font partie du royaume des cieux sont lents à critiquer les autres. Nous voyons ça dans les cinq premiers versets. Verset 1, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ici, Jésus, bien entendu, il n'exclut pas tout jugement. S'il nous faut une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, déjà, cela est un jugement sur ces scribes et ces pharisiens, n'est-ce pas? Et c'est également une invitation à exercer un jugement sain par rapport à leur comportement et leur justice. Le verset 6 qui suit cette première exhortation exhorte les croyants à exercer un jugement, de ne pas jeter des perles à des cochons ou donner ce qui est sacré aux chiens. Non, ce que Jésus exclut ici, c'est un esprit faux critique envers nos frères et sœurs, surtout lorsqu'il est clair que celui qui lance le critique a son propre lot de fautes dont il semble lui-même ignorer. Pourquoi, verset 3, regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Continuer à porter jugement sur les autres, c'est d'inviter en fait le jugement sur toi-même, parce que ça manifeste un esprit que tu es toujours en train d'opérer votre système religieux avec Dieu sur la performance de l'autre. Verset 2, c'est « Avec le jugement par lequel vous jugez, qu'on vous jugera, et que c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez, qu'on mesurera pour vous. » Encore une fois, ce n'est pas ici qu'il n'y a jamais de place pour la correction au sein de la communauté des disciples de Jésus-Christ. Non, il y a une place. Mais que cela soit fait sur base d'une humilité réciproque et dans des domaines qui sont importants, au lieu de déclarer sur tout et n'importe quoi que les choses doivent être faites comme toi, tu insistes. Sinon, nous sommes ouverts à cette accusation du verset 5, n'est-ce pas? Hypocrite! Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'apôtre Paul, Romains chapitre 14, s'adresse à ce genre d'esprit critique qu'il y avait dans l'assemblée à Rome. Verset 4 de Romains 14 nous dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Cela ne te regarde pas. » En effet, juste un peu plus tard, aucun de nous vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Cela est un danger autant plus présent dans une église comme la nôtre, où nous faisons de notre mieux de nous soumettre à ce que la parole nous dit. Et dans un tel contexte, c'est fort possible pour des croyants zélés pour la parole de Dieu de confondre le sérieux pour la parole de Dieu avec une façon très rigide d'appliquer cette parole à différentes situations et à différentes personnes. Alors, je vais vous donner deux exemples. La parole de Dieu nous exhorte à la générosité. Mais ce n'est pas pour autant que si quelqu'un décide de dépenser une somme d'argent sur un nouvel iPhone, que d'office, cette personne n'est pas en train de gérer ses finances prudemment. Cela dépend de beaucoup de facteurs qui nous dépassent, dont nous nous ignorons. Et c'est à chacun de nous de rendre nos comptes à Dieu qui est notre maître pour nos différents choix. Nous ne sommes pas appelés à rendre nos comptes à d'autres par rapport à ces choix. Mais de nouveau, je pense que c'est facile, sous couverture d'un souci fraternel pour quelqu'un, de faire preuve d'une certaine envie ou de jalousie dans ce domaine. On peut imaginer Jacques qui propose à son groupe de quartier de prier pour un tel ou un tel, car il est inquiet pour l'engagement d'un tel ou un tel par rapport au Seigneur. Je me souviens d'un ami, un homme brillant, à beaucoup d'égards, point de vue de la théologie, mais un peu intense, point de vue de personnalité, qui partageait avec un groupe d'amis dont je faisais partie lors d'un repas ensemble son désarroi qu'un ami chrétien voulait dépenser un montant qu'il trouvait déplacé et il était soucieux pour le discipulat de cette autre personne. Il nous demandait ce qu'on lui conseillait de donner comme conseil à cette autre personne. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit de ne rien dire, car nous n'avons pas toutes les cartes en main pour juger ce qu'un autre décide de faire dans certains domaines. Deuxième exemple, la parole nous exhorte aussi à la méditation de la parole et à la prière. D'où vient dans le milieu chrétien, surtout je dirais dans le milieu chrétien évangélique, le désir de nous encourager à suivre un plan de lecture de la Bible, d'avoir ce que certaines personnes appellent dans le milieu évangélique un culte personnel. Merci Seigneur pour cette habitude. L'Église propose, notre Église propose un plan de lecture, effectivement. Mais gare à nous de trop vite juger ceux qui n'ont pas eu leur culte perso ce matin ou cette semaine. Car une pratique utile n'est pas toutefois un commandement biblique. Le commandement biblique, c'est de méditer régulièrement la parole de Dieu, de prier régulièrement le Père. Mais que la méthode que nous employons pour mettre en pratique le commandement biblique ne soit pas elle-même le commandement biblique. Donc au lieu de dénigrer l'autre afin de se sentir supérieur, regardez ce que moi j'ai pu faire cette semaine, mon frère. Jésus nous exhorte à bel et bien examiner la poutre qui se trouve dans notre propre œil. S'il y a quelque chose qui rend les remarques de Jacques, dans l'exemple que je vous ai donné, difficile, c'est que Jacques lui-même n'est pas conscient que si on faisait comme lui, on serait en mesure aussi de lui faire part de ce que nous observons comme étant la paille qui se trouve dans son œil. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que nous sommes réticents que d'autres nous montrent la poutre dont nous avons affaire dans notre propre œil. Jacques est dur de l'entendre lorsqu'il nous parle, car il se croit à tout moment à la hauteur pour nous en parler, pour nous donner des leçons à tout moment. Il y a un proverbe biblique qui nous dit « Les blessures d'un ami » prouve sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Cela reconnaît qu'il y a une place pour offrir des conseils à des amis. Mais l'esprit derrière, ce n'est pas un esprit critique avec but de montrer aux autres que nous sommes bel et bien supérieurs. L'esprit est un esprit de fraternité, d'amitié. Paul, l'apôtre Paul, Romains 14, Romains 15 nous dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Ils n'ont pas, ces disciples de Jésus, la mission de corriger les autres, mais plutôt de les accueillir, car Christ nous a accueillis. Donc, ceux qui font partie du royaume des cieux sont lents à critiquer les autres. Deuxièmement, ils ne sont pas naïfs quant à l'opposition dont ils doivent faire face. Si Jacques doit faire attention à son attitude à lui, Nina, quant à elle, ne fait pas preuve de discernement. Car Jésus avait averti ses disciples en disant « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, ne jetez pas vos perles devant des cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. » Ce sont des descriptions, derrière deux pièges, chapitre 2, verset 2, je pense, parle dans ces termes de l'homme dépourvu de toute sensibilité qui se comporte comme un animal, rien qu'un animal. Pour eux, donc, ce qui est sacré n'a aucune valeur. Et ils se réjouissent donc de lacérer celui qui offre ce qui est sacré. Et comme des cochons, non seulement des cochons sont impurs du point de vue du peuple juif, mais aussi dangereux. Ils piétinent les perles. Ce qui est donc profond, précieux, ce qui a de la valeur, ben les cochons, ils s'en fichent. Et ils cherchent comme des simples animaux à satisfaire rien que leur instinct dans l'immédiat. Comme des chiens sauvages, ils sont dangereux. Bien entendu, dans le contexte du serment sur la montagne, la perle, les perles dont Jésus parle, c'est encore le royaume des cieux. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ici, nous découvrons que tout contexte n'est pas toujours propice pour en parler. Oui, fin de Matthieu, les disciples de Jésus-Christ ont la tâche collective de faire d'autres disciples de Jésus. C'est pour cela que nous soutenons le projet 938, pour que cela se fasse. Mais en faisant cette tâche, l'Église de Jésus-Christ prend en compte le contexte dans lequel nous nous trouvons, surtout lorsqu'il y a de l'opposition. Alors, pensons juste brièvement à l'exemple biblique dans le livre des Actes, le chapitre 13, entre autres, où Paul et Barnabas se trouvent à Antioche de Pisidie et ils sont face à des Juifs qui s'opposaient virulemment à leur message, à un point où ils insultaient Paul. Comment répond Paul? C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Alors, est-ce que nous pouvons penser à des contextes similaires de nos jours? Je pense que oui. On peut penser, par exemple, à un entretien à la télé avec un journaliste qui a pour but de ridiculiser la foi, plutôt que de vouloir prendre au sérieux le contenu de ce qu'on dit. Je pense aussi à l'exemple, lorsque moi j'étais jeune, où il y avait un groupe de chrétiens qui voulaient témoigner de l'amour de Dieu auprès de leurs camarades de classe en tant qu'étudiants, en leur parlant de l'évangile à la sortie des boîtes de nuit à 2h ou à 3h du matin. Bien que j'admirais leur zèle, je dois dire que leur naïveté était aussi sur le devant de la scène à ce moment-là. Car bien qu'ils aient eu ce qu'ils appelaient de bonnes conversations avec certaines personnes, ils ignoraient que dans un contexte où l'alcool a beaucoup joué, ces conversations n'allaient pas porter beaucoup de fruits. Nous pouvons, je pense, d'une certaine mesure, admirer le courage d'un soi-disant évangéliste qui circule dans le métro ici à Bruxelles pour soi-disant proclamer la bonne nouvelle. Mais j'ai peur qu'en grande partie, au lieu de prendre au sérieux le message qui est proclamé à ce moment-là, nous nous moquons d'une telle personne, voire même nous ayons pitié d'une telle personne. Nina, donc, elle a encore du progrès à faire, des progrès à faire. Mais elle n'est pas la seule, car la naïveté est moins grave que l'autosuffisance. Une autre marque d'un citoyen du royaume des cieux Troisièmement, c'est quelqu'un qui demande de l'aide à son bon Père céleste. Versets 7 à 11. Mais il se peut qu'à ce stade, dans le serment sur la montagne, vous avez entendu suffisamment sur la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens que vous commencez à douter un peu de vos capacités de tout mettre en pratique par rapport à ce que Jésus dit. Quelqu'un m'a fait la remarque cette semaine que de temps à autre, il se pose la question « Suis-je pour du vrai un chrétien face à ce que la parole dit ?» Si notre réflexe, lorsque nous sommes exposés aux normes du royaume, c'est de nous tourner vers notre Dieu dans une pauvreté d'esprit, dans la dépendance de Dieu, la réponse est clairement « oui ». Vous faites partie du royaume des cieux. Car de telles actions caractérisent ceux qui font partie du royaume. Verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Contrairement à ce que le monde pense, Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui est là, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas hors de notre portée. Il n'est pas difficile à trouver. Il n'est pas rien qu'un créateur qui a mis en marche cette création et ensuite il s'est caché quelque part au coin le plus loin de l'univers, impossible à trouver, même pour le télescope spatial James Webb. Non, il est proche de chacun d'entre nous. Il prend plaisir à nous entendre et à nous donner ce qu'on lui demande. Il n'est ni avare, comme une méchante tante qui s'accapare son héritage, ni méchant, qui se réjouit de notre misère et notre désarroi, ni indulgent, comme un papy qui nous fournit tout sans réfléchir à nos vrais besoins. Jésus, il donne l'exemple ensuite d'une relation père-fils pour illustrer ceci. Verset 9, « Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Est-ce en temps normal, un parent, est-ce normal, en temps normal, pour un parent, de vouloir décourager son enfant ? De faire croire à l'enfant qu'il aura quelque chose, dans l'exemple que Jésus donne, une pierre ressemble à un pain de l'époque. Et un serpent peut ressembler à un poisson tel qu'une anguille, apparemment. Mais en réalité, donc il semble donner quelque chose, mais en réalité, il va lui donner l'opposé. Est-ce qu'un parent prend du plaisir à faire cela? Non. Non. Il faut toujours faire attention si nous sommes parents, parce que nous savons que promettre quelque chose à nos enfants, sans ensuite honorer la promesse, donne suite à une grande déception par rapport aux enfants. Alors, étant donné cela, écoutons comment Jésus donc applique cette réalité. Verset 11, « Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » De base, oui, Jésus sait que nous ne sommes pas bons, comme le Père, lui, il est bon. Non, nous sommes plutôt laissés à nous-mêmes, indifférents, égoïstes, mauvais, indépendants. Jésus affirme cela en passant pas pour dire que nous sommes incapables du bien. Bien sûr que non, il donne un exemple où les parents font du bien. Il ne dit pas que nous sommes aussi mauvais que nous pouvons l'être, ce n'est pas le cas. Mais pour qu'on laisse peser le contraste qu'il y a entre le Père et nous. Car si nous, mauvais que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, À combien plus forte raison notre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Notre Dieu n'est pas contre nous, mais il est pour nous. Oui, Albert a raison lorsqu'il constate que Dieu donne aussi des choses dans sa grâce commune à ceux qui ne le demandent pas. Il suffit d'aller juste deux chapitres avant, Matthieu 5, verset 45, que disait Jésus par rapport à Dieu. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est vrai, cela. D'une certaine manière, il n'y a pas besoin de prier pour le soleil ou pour la pluie. Mais d'autres dons de la part de notre Père Céleste ne sont pas donnés à ceux qui les demandent. Le pardon. Non, d'autres dons sont donnés que à ceux qui le demandent. Le pardon, le salut, la délivrance du mal, la confiance en Dieu, même lorsque tout semble noir. Il paraît qu'Albert est trop content avec ce qu'il a, qui a peu d'importance, et il n'est pas suffisamment soucieux pour ce qui a de grande importance. Comme dit l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Rappelons-nous que Jésus a déjà donné quelques instructions à propos de la prière au chapitre 6. Ici, donc, n'est pas une carte blanche pour avoir tout ce qu'on veut, mais c'est en conformité de ce qui est bon pour nous, ce qui est conforme aux priorités du royaume, qu'il réponde à nos prières. Et si nous disons comme Albert que la prière ne marche pas lorsque nous avons essayé, ça n'a pas marché, deux fois d'ailleurs cette semaine, des personnes me l'ont dit. Comment devons-nous répondre à cela? Alors moi j'aimerais répondre avec une autre question. À quel âge, si vous êtes parent ici présent, est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez accorder un smartphone à votre enfant? Une chose est sûre, je pense, ce serait plus tard qu'eux, ils aimeraient le recevoir. Ils pensent être en mesure de gérer dès un très jeune âge les réseaux sociaux, etc. Mais nous, nous savons que trop jeune, c'est une malédiction plutôt qu'une bénédiction d'avoir un smartphone. Merci Seigneur donc que notre Père Céleste sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc, en fonction de ce que je demande à Dieu, Dieu, il fait le tri, comme un bon Père Céleste. C'est pour cela qu'il nous exhorte à soumettre nos requêtes dans le chapitre 6 à sa volonté. Et parfois, la réponse, ce n'est pas non à nos prières, mais c'est pas encore. Pas encore. Et si Albert demande, ben pourquoi prier à nous? Si parfois c'est non, parfois c'est pas encore. Car encore comme un enfant, cela fait partie de notre formation avec notre Père Céleste. De reconnaître ma dépendance de lui. De ne pas être autosuffisant dans ma foi. De reconnaître que toute bonne chose vient de sa main. Et de découvrir la joie d'un bon Père Céleste qui répond aux prières, aux requêtes de ses enfants. Albert doit apprendre cela. Il doit lâcher son autosuffisance qui se révèle être un orgueil dangereux qui a pour racine une mauvaise compréhension de la bonté et la proximité de Dieu. En grande mesure, si notre vie spirituelle est pauvre, c'est parce qu'il n'y a pas de culture de se tourner vers le Père qui nous aime. Dans la dépendance, en lui demandant de nous venir en aide. Demandez, il dit, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Est-ce qu'on a envie de recevoir? Ou est-ce qu'on a un peu peur si on lui demande qu'on va devoir agir en conséquence? Dieu, il est là à tout moment. Il attend notre appel. Pas parce que lui, il en a besoin, comme s'il est seul si on ne lui parle pas, mais parce que nous, nous avons terriblement besoin de ce que lui, il nous offre. Lâchons, chers frères et sœurs, notre fierté, notre indépendance. Venons régulièrement à lui dans la prière, avec un cœur sincère. Il est ni radin, il donne notre Père Céleste, ni lointain, on peut le trouver si on lui demande, si on cherche. Et il est ni sourd, il ouvre si nous frappons à la porte. Notre problème, c'est que on ne demande pas, on ne cherche pas, on ne frappe pas, parce que nous comprenons mal de qui est-ce que nous avons affaire, notre bon Père Céleste. Ceux qui font partie du royaume des cieux demandent de l'aide à leur bon Père Céleste. Et dernièrement, ils mettent en pratique la règle d'or, verset 12. La règle d'or est exprimée positivement uniquement par Jésus. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Alors si le verset 12 suit la partie sur la prière que nous venons de voir, il se peut que c'est la bonté de Dieu qui doit nous pousser à vivre de la même manière, à ce que cette même bonté soit donc exprimée envers notre prochain. Si Jésus a tout le texte du chapitre 7 déjà en vue, alors cela pourvoit un cadre pour comprendre à quel point un esprit critique envers un frère se heurte à ce principe de la règle d'or. Mais c'est probable en fait que ce verset 12 résume tout le sermon sur la montagne depuis le chapitre 5, verset 17, là où Jésus avait mentionné la première fois la loi et les prophètes. Que Jésus, il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et donc la justice du royaume qu'il demande, qui doit être supérieure aux scribes et aux pharisiens, au chapitre 5, verset 20, se résume, cette justice, avec ce principe de la règle d'or. Car ici, il dit, il termine le verset 12 en disant, c'est là la loi et les prophètes. La justice donc externe cherche toujours à limiter nos responsabilités. Et donc l'expression négative de la règle d'or convient toujours mieux pour ceux qui ressemblent aux scribes et aux pharisiens. Alors exemple, ne faites pas à votre prochain ce que vous ne voulez pas qu'il fasse pour vous. C'est exprimé négativement. Exemple, vous n'aimez pas être cambriolé, par exemple. Ah non, ne le faites pas vous-même. Une action que je dois faire. OK. Mais si nous exprimons le principe positivement, alors nous allons avoir toute une gamme de choses à faire. Vous aimez recevoir de la part des autres, alors donnez vous-même. C'est plus vaste l'application, n'est-ce pas, de ce principe-là. Et cela ouvre la porte à des milliers d'applications pratiques dans nos vies de tous les jours, sans donner toutes des petites lois. Cherchez positivement le bien pour les autres. Pas parce que cela ira mieux pour nous lorsque nous faisons cela, même si parfois ça c'est le cas, mais parce que cela accomplit la loi et les prophètes. C'est la justice qu'il nous faut. Que Dieu, chers frères et sœurs, nous donne la grâce d'appliquer cette règle et de lui demander de l'humilité de pouvoir l'appliquer. Car c'est parfois le cas dans le milieu protestant évangélique, et avec ceci je termine. Nous sommes fort préoccupés au plan que Dieu il a pour nous. Peut-être vous vous posez toujours cette question-là. Quel est son projet pour moi? Et plus souvent, lorsque nous parlons dans ces termes, nous voulons découvrir quelque chose dans le domaine des relations intimes ou dans des domaines de mes déplacements, mon futur par rapport à mon travail. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Mais c'est important que régulièrement nous nous rappelons que Dieu a révélé sa volonté pour nous dans sa parole. Et ce résumé qu'il donne au verset 12, de faire à d'autres ce que vous, vous voulez que les gens fassent pour vous, résume la volonté de Dieu. La loi et les prophètes, en tout cas la partie de la loi et des prophètes à propos de notre amour pour notre prochain, qui donne une expression concrète, bien entendu, de notre amour pour Dieu, que la loi et les prophètes demandent également. Arrêtons d'être donc préoccupés par des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas promises par notre Seigneur. Et concentrons-nous sur ce que nous avons à faire, ce que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole. Nous allons, chers frères et sœurs, nous allons terminer avec un chant qui exprime à la fois notre regret par rapport à nos fautes. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. Mais aussi une prière, deuxième strophe, qui exprime à Dieu notre Père qu'il voit notre cœur et que nous voulons, par la puissance de la croix dans la troisième strophe, nous voulons nous confier en lui, en toi, je me confie. C'est ça, à cela qu'il nous appelle. Et donc je vous invite, sans tarder, chers musiciens, de se mettre en place et nous allons nous mettre debout pour chanter.